Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Martin Veil.
Bonjour Philippe.
Vous êtes journaliste et reporter, vous faites partie de la bande de Quotidien et depuis la saison dernière, vous avez votre émission à vous, des grands reportages, des enquêtes sur TMC. C'est produit par Bangoumi, la société de production de Yann Barthès et de son complice Laurent Bon. Après les gourous, la cocaïne, les complotistes, le Brésil de Bolsonaro et les ravages du tourisme de masse, vous vous penchez sur le rêve américain. Vous avez commencé à tourner en février. Puis est apparue la crise du coronavirus. Parfois, on le sait, un événement fait tomber à l'eau un sujet. Par exemple, si vous faites un sujet sur la Ligue des Champions, ben, il ne se passe plus rien. Là, non, pas du tout. Qu'est-ce que cette crise, Martin Veil, dit du rêve américain ?
Bah, en fait, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que nous, on se baladait aux États-Unis justement avant la crise pour questionner les forces et les faiblesses du rêve américain. On est rentré depuis la crise a frappé le monde entier et on s'est rendu compte qu'en fait, les témoignages qu'on avait récoltés prenaient encore plus de force. Donc, on a recontacté les personnes qu'on avait tournées pour savoir s'ils avaient changé leur vision du rêve américain ou non. Je pense que ce que cette crise dit du rêve américain, c'est qu'elle en montre un petit peu les limites. On est dans la première économie mondiale. Or, c'est un pays qui est ravagé par énormément d'inégalités. Et ces inégalités que nous, on avait pu constater sur place il y a quelques mois, sont renforcées par cette crise. Donc, je pense que la question se pose effectivement plus que jamais.
25 millions d'Américains avec cette crise ont perdu leur travail. Et aux États-Unis, on le sait, les allocations chômage sont souvent inexistantes. Vous montrez des images saisissantes, des milliers de familles qui se précipitent dans les distributions de nourriture. Mais quand je dis des milliers, on voit des files d'attente. Vous dites 10 000 voitures à une banque alimentaire. Ça paraît complètement invraisemblable. Et ça ne touche pas que les pauvres. Il y a également des classes moyennes.
Non, exactement, ça touche tout le monde et c'est vrai que les images sont frappantes. Il y a une autre image aussi, c'est celle du maire de New York qui se dit, mais comment est-ce que c'est possible qu'à New York, on ait autant de gens dans les food banks, devant les banques alimentaires. Et c'est vrai que c'est des images qu'on n'a pas l'habitude de voir parce que quand on pense aux États-Unis, on est souvent un petit peu émerveillé par la puissance de cette économie, de cette société et on en voit souvent pas suffisamment les failles. Et je pense que cette crise, justement, elle nous montre toutes les failles de ce système-là.
Vous avez commencé votre enquête en Arizona avec le champion de rodéo, il s'appelle Jesse Ride. Il peut gagner 100 000 dollars en remportant une épreuve, ça dure 8 secondes, mais enfin, c'est comme le 100 mètres, hein. Ce qui compte, c'est pas les secondes. Pourquoi lui ? Qu'est-ce qu'il a d'emblématique ?
En fait, cette séquence, c'est surtout une forme de métaphore un petit peu du rêve américain. C'est-à-dire que la réussite là-bas est très souvent fulgurante, mais la chute particulièrement brutale. Donc c'est pour ça qu'on utilise un petit peu cette métaphore du rodéo. Et la vie de quelqu'un qui fait du rodéo, c'est de parcourir les états concours après concours pour espérer empocher quelques billets. Et si jamais on est premier, effectivement, on peut gagner beaucoup d'argent. Quand on n'est pas premier, en revanche, ça devient vite beaucoup plus dur.
Et vous voulez dire que même on peut en avoir plein le dos et je suis poli. Vous étonnez de sa philosophie. Il dit ce que tu fais dans ton travail, ça paye. Mais je me dis, mais c'est pas la philosophie de Martin Veil. Moi, je vous vois comme un journaliste très, très, très travailleur. Et ce que vous faites, ça paye.
Oui, mais je pense que c'est pas en fait ça. Cette idée, si vous voulez, que en bossant, on peut accomplir de grandes choses, je pense que c'est quelque chose que tout le monde partage. Ce qui est intéressant dans le système américain, c'est que c'est pas seulement ça. C'est l'idée que, de manière individuelle, je vais pouvoir réussir quoi qu'il se passe autour de moi. Donc c'est-à-dire on estime qu'on court tous dans la même course parce que les règles sont les mêmes pour tout le monde. Or le système américain et d'autres systèmes dans le monde, on peut parler de la méritocratie à la française aussi, on fait courir un sprinter et un unijambiste, on leur dit les conditions sont exactement les mêmes, donc au final si l'unijambiste n'y arrive pas, c'est simplement qu'il n'a pas été aussi bon.
Incroyable transition, la preuve que non, puisque vous prenez un témoin, il s'appelle Zaya Younan. Il est milliardaire, il a fait fortune dans l'immobilier, il est immigré italien. Il est arrivé Il est arrivé aux États-Unis à 13 ans avec ses parents et en plus, vous parlez de jambiste, il boite parce qu'il était atteint par la polio. Il arrive en Amérique à l'âge de 13 ans avec ses parents, je l'ai dit, ils avaient 2000 euros pour 7 personnes, les deux parents, les 5 enfants. Là maintenant, il vit dans une immense villa à Malibu, à côté de celle de Britney Spears. Il a beaucoup bossé en classe, il a un simple diplôme d'ingénieur. À 19 ans, racontez-vous, il est engagé chez General Motors et à l'âge de 23 ans, il a été l'un des inventeurs de l'airbag. Il gagne son premier million. Je me suis dit, mais où est le problème ?
Mais il y a absolument aucun problème. Zaya Younan, effectivement, c'est vraiment l'image du rêve américain. C'est quelqu'un qui est arrivé dans le pays de parents immigrés qui n'avaient pas un sou en poche et qui s'est fait tout seul. Et donc c'est quelqu'un effectivement qui ne comprend pas que d'autres n'y arrivent pas. Si lui a réussi, pourquoi est-ce que d'autres n'y arriveraient pas ? On reproche évidemment absolument rien à Zaya Younan.
Oui, parce que justement, il n'a pas pu être aidé ni par son physique ni par ses parents.
Non, tout à fait. Mais on ne dit pas qu'il n'y a pas des success stories et qu'elles sont incroyables et qu'elles ne font pas rêver le monde entier. Au contraire, ce qu'on explique, c'est que pour une histoire comme celle de Zaya Younan, il y en a 300 autres de personnes qui n'ont pas réussi. C'est ça, en fait, que ça interroge. Est-ce que parce qu'on est peut-être moins performant dans ce monde-là, ça veut dire que on ne devrait pas avoir des vies satisfaisantes? Elle est là, en fait, la vraie question, je pense, de ce reportage.
Et c'est encore plus complexe que ça. Il y a une séquence très, très forte. Zaya Younan est à table avec sa femme et ses enfants, ils déjeunent en terrasse d'un luxe inouï, c'est somptueux, splendide. Et là, vous lui posez une question que je n'avais jamais vu poser, comme ça, en public, surtout devant les personnes concernées.
J'ai une question un peu mal élevée, mais qui va hériter de tout ça ?
Mes enfants, ils n'auront rien du tout. Chaque dollar que nous avons, quand ma femme et moi mourrons, ira aux pauvres à travers le monde, pour la bonne cause.
For good causes. Des ONG.
Oui, des associations.
Vous allez tout donner à des ONG.
Tout pour les pauvres. Pas un seul euro ou dollar ne sera donné à mes enfants.
Vous, du coup, vous en pensez quoi ?
C'est comme ça qu'on a été élevés. On ne prend rien pour acquis. On doit travailler pour vivre. Donc, c'est normal.
C'est son argent.
J'ai tellement d'amis dont les enfants se croient tout permis. Certains attendent que les parents meurent pour pouvoir récupérer l'argent, pas mes enfants.
Rien pour les enfants, ça change de la mentalité aristocratique et de la duplication des élites.
Tout à fait, tout à fait. Mais c'est une philosophie de vie, si vous voulez, le rêve américain. Nous, on ne dit pas qu'il faut absolument tout jeter, loin de là. Et au contraire, Zaya Younan, effectivement, c'est une histoire fulgurante de success story. Le reportage vise plutôt à s'interroger, en fait. Pourquoi est-ce qu'on privilégie une économie et un modèle dans lequel, certes, il va y avoir des Zaya Younan, mais dans lequel on va avoir certains quartiers qui sont complètement laissés à l'abandon. Et ces gens-là à qui on dit, mais attendez, si quelqu'un comme Zaya Younan, par exemple, a réussi, et que vous ne réussissez pas, c'est de votre faute. Et ça, c'est faux. Et c'est ce qu'on essaie d'expliquer.
En une seconde, question subsidiaire, il vous a fait boire un château Pétrus à 3 000 $, millésime 99, moi j'en ai jamais bu. C'est comment ? C'était magique ou vous êtes passé à côté ?
C'est bon, je vous avoue qu'on a testé poliment parce qu'on était en train de travailler.
Bon, super. Jamais d'alcool, jamais d'excès en tout cas. Vous restez avec nous, Martin Veil, on a encore plein de questions à vous poser au sujet du rêve américain et aussi d'un précédent reportage que vous avez fait. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Martin Veil, il signe une enquête inédite, Covid-19, la fin de l'American Dream. Ça sera demain, mardi, sur TMC, à 21h15. Il y a des portraits absolument saisissants d'Américains que vous êtes allés voir sur place et que vous avez revus. On va en parler, notamment ce milliardaire d'origine iranienne, Zaya Younan, qui a fait fortune dans l'immobilier. Il connaît un peu Donald Trump, normal, c'est le même milieu. Ils ont déjà travaillé ensemble dans l'immobilier. On le compare souvent à lui, mais selon lui, il vous explique qu'il y a une différence essentielle entre les deux hommes. Il vous raconte.
Il y a des points communs, c'est vrai. Mais moi, je suis parti de rien. Alors que Trump vient d'un milieu très aisé. Ses parents étaient très riches. Par ailleurs, Trump a connu beaucoup de faillites. Dieu merci, pas nous. Donc, on n'est pas vraiment dans la même catégorie.
Vous le connaissez personnellement ?
Oui, je le connais. Un jour, on a acheté une partie du prêt de sa propriété. Il y a eu une transaction et nous étions ses prêteurs.
Et vous avez prêté de l'argent à Donald Trump ?
Oui.
Vous en pensez ?
Oui, bien sûr.
Ambiance Booba contre Caris.
Booba et Caris, deux rappeurs qui se sont battus dans un aéroport. Et je me suis dit, c'est pas vraiment le genre de référence qu'on retrouve dans un grand reportage. Votre cible, et là, je fais l'interview média, c'est les moins de 25 ans ?
Oui et non, les moins de 25 ans ou autre, là, effectivement, c'est une blague, parce que la façon qu'il a, si vous voulez, de se comparer à Donald Trump, c'est drôle. On a un peu l'impression, effectivement, d'un clash entre milliardaires. Il explique que oui, il comprend la comparaison, mais qu'en gros, ils viennent pas du même endroit et qu'ils ont pas réussi de la même manière.
Booba Caris,
un gentil tacle.
À propos d'ado, vous montrez des adolescents qui passent leur week-end à faire des stages dont j'ignorais l'existence racontée.
Oui, on appelle ça des stages de pauvreté. C'est vrai que ça nous a assez frappé. On parle en fait souvent de ces deux Amériques qui se regardent sans trop se comprendre. Et là, c'est une mission évangélique qui propose ça. Et donc, c'est des stages dans lesquels les jeunes se mettent dans la peau de SDF avant ensuite d'aller rencontrer des enfants issus des quartiers. Mmh. Et c'est vrai que cette séquence nous a interpellés parce que elle montre un petit peu toute la folie de la société américaine où on se rend compte qu'il y a des problèmes, mais on y apporte des solutions qui, pour nous, peuvent être un petit peu choquante parce que pour ces étudiants, ça se résume globalement à passer une nuit dehors, puis ensuite à aller voir des gamins de quartier jouer avec eux, et certains ont l'impression que ça va parfaitement transformer leur vie. Et en même temps, on peut que saluer l'idée d'essayer de rapprocher ces deux Amériques qui se regardent sans se comprendre. Donc c'est vrai que c'est une séquence assez étonnante.
Vous dites que ce qui sépare les Américains entre eux dans l'American Dream, c'est l'accès aux soins. On est dans le pays le plus riche du monde, mais une personne sur dix n'a pas d'assurance santé. Vous avez même trouvé des dentistes qui soignaient gratuitement des sans-abri, des gens qui n'étaient pas assurés, qui eux-mêmes se sont retrouvés sans couverture santé, quelque chose de totalement impensable en France. Et je vais le dire, ce qu'il y a de formidable dans votre sujet, c'est que après votre reportage là-bas sur place, vous avez recontacté tous ces gens, et par exemple cette femme dentiste.
Oui, tout à fait, qui est assistante dentaire, Terry. On avait assisté, nous, il y a quelques mois, à une séquence, donc c'est bien avant le Covid, un hangar gigantesque dans lequel, effectivement, à la chaîne, des centaines et des centaines de patients viennent se faire soigner gratuitement les dents. Et alors, ce ne sont justement pas que des SDF, très très loin de là. Ce sont des gens issus de classe moyenne, comme vous, comme beaucoup de gens, et qui n'ont juste pas les moyens de se soigner, alors qu'ils ont un boulot et qui, du coup, vont dans ces cliniques. Cette assistante dentaire, Terry, donc qui nous expliquait toutes les failles qu'on pouvait trouver dans le système américain à l'époque, on l'a recontactée. Elle-même venait à peine d'être embauchée. Elle ne sait pas du coup si elle va avoir un boulot, et surtout elle a perdu son assurance santé. Donc on a une assistante dentaire, on a une soignante qui n'a pas en ce moment d'assurance santé en pleine crise du Covid aux États-Unis. Et c'est vrai que ça fait vraiment réfléchir.
Vous êtes allé aussi rencontrer les Twin Hawkers. Qui sont-ils? C'est quoi Twin Hawks?
Twin Hawks, c'est une communauté qui a été créée il y a plusieurs décennies maintenant, et donc ce sont des gens qui vivent en autonomie, en autarcie, et qui justement ont décidé de tourner le dos au rêve américain. Donc tout va dans un pot commun, les gens n'ont pas de salaire, il faut donner 42 heures de travail à la communauté, et en échange on est nourri, logé. Et ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est que justement, ils nous expliquent que leur rêve à eux, c'est pas un rêve matérialiste, c'est pas un rêve individualiste, que c'est pas comme ça qu'ils voient la société. Et quand on tournait cette séquence, on l'a trouvée intéressante à beaucoup d'égards, sur ce qu'elle disait du rêve américain et de ceux qui s'en détournent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la crise du Covid-19, quand on revoit à nouveau les images qu'on a tournées à l'époque, on se rend compte que c'est des gens qui font eux-mêmes leur pain, c'est des gens qui donnent des cours à leurs enfants, c'est des gens qui vivent entre eux. C'est-à-dire que leur vie habituelle de gens qui vivent en communauté ressemble étonnamment à notre vie actuelle de confinés.
Ouais, alors je précise qu'ils ne prennent pas le retour à la lampe à huile, c'est pas des illuminés, ils ont Internet, c'est moderne, ils ont une Xbox. Vous dites qu'ils sont 100 000 à vivre de manière un petit peu alternative, chiffre qui a doublé en 15 ans. Vous parlez de l'éducation, quelque chose m'a frappé, les enfants ne vont pas à l'école, ce sont les parents qui font la classe. Mais c'est justement la critique qui est faite aux inégalités sociales en matière d'éducation. Dans certains milieux défavorisés, les parents sont justement incapables d'enseigner ne serait-ce que les rudiments à leurs enfants. On l'a bien vu avec le confinement, il faut déjà être soi-même éduqué et cultivé. Et là, c'est la limite du genre qu'on voit.
Oui, bien sûr, c'est pas un modèle qui est forcément amené à s'étendre. Ça montre juste qu'en fait, il y a d'autres façons de vivre et il y a d'autres idéaux vers lesquels on peut tendre. On n'est pas du tout en train de dire que cette vie en communauté, elle conviendra à tout le monde. On explique juste que c'est une alternative, et c'est une alternative, je pense, qui interpelle particulièrement aujourd'hui, depuis que la crise a frappé.
Exactement. Merci beaucoup, Martin Veil. Je rappelle, une enquête inédite, Covid-19, la fin de l'American Dream. Ce sera demain soir sur TMC à 21h15. Merci à vous.
Merci beaucoup.
On va retrouver Hélène Manarino et son journal.